franceinter.fr.
Grand fait de monde bruit du papier journal, Frédéric Pommier, j'adore ça. C'est l'heure de la revue de presse, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Quotidiennement, nous sommes amenés à célébrer des journées de ceci ou cela. Journée de lutte contre ceci, journée anniversaire de cela. Or, en ce 30 avril, il y a vraiment fort à faire, ainsi qu'on peut le lire dans M, le magazine du Monde. C'est effectivement la journée des magasins à fil, la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. C'est aussi la journée mondiale des vétérinaires et celle de la non-violence éducative. Et enfin, la journée internationale du jazz. Pour résumer, note le journal, ce samedi, voilà votre programme. Après avoir enfilé votre tricot, vous pouvez aller faire un tour en chaise roulante pour voir que ce n'est pas très facile et conduire ainsi votre chien chez le vétérinaire. Et vous êtes prié pendant votre périple de ne pas frapper vos enfants et de vous munir de votre iPod afin d'écouter un air de Duke Ellington.
Ce 30 avril, Frédéric, restera également comme le jour où on a appris que Jean-Marie Le Pen avait été irradié par le nuage de Tchernobyl.
Et certains diront certainement que ceci explique vraisemblablement cela. C'est dans la dernière vidéo de son journal de bord qu'il fait cette confidence. Le 26 avril 1986, raconte donc Jean-Marie Le Pen, j'ai consulté parce que j'avais une hypothyroïdie. Et le médecin m'a demandé, mais vous n'avez pas été irradié ? Et en effet, dit-il, j'ai été irradié le dimanche de l'explosion de Tchernobyl. Ce jour-là, il prenait un bain de soleil dans le plus simple appareil à Cannes, je vous laisse imaginer. Il était sur la terrasse de son épouse Janie. C'est curieux comme le soleil est chaud, lui a-t-il dit. Eh bien, poursuit-il, c'était le nuage de Tchernobyl. Confidence dont se fait l'écho Le Figaro ce matin, avec un grand dossier consacré aux nombreuses divergences qui apparaîtront demain à l'occasion des rassemblements du Front National, le FN officiel, celui de Marine Le Pen, place Saint-Augustin à Paris, et le FFN, canal historique, celui de Jean-Marie Le Pen, place des Pyramides à Paris, comme tous les ans, devant la statue de Jeanne d'Arc, mais d'au-delà du psychodrame familial du 1er mai, nous explique Judith Weintraub, la candidate du FN pour 2017 doit affronter dans son propre parti une concurrence qui risque d'être bien plus lourde de conséquences sur le plan politique, celle de Marion Maréchal Le Pen, ligne souverainiste du côté de Marine Le Pen, ligne plus libérale et conservatrice du côté de sa nièce, qui notamment ne considère plus la sortie de l'euro comme une priorité. Les questions sociétales font également débat, le mariage pour tous pour Marine Le Pen, ça ne mérite pas d'y revenir. Son bras droit Florian Philippot est du même avis, ainsi a-t-il récemment déclaré. La question de la culture du bonsaï compte également beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que l'on va lancer un grand collectif sur le sujet. Réponse de la nièce, députée du Vaucluse. Si la culture du bonsaï entraînait des millions de personnes dans la rue, cela vaudrait le coup de s'y intéresser pour elle. Il faut donc continuer à préconiser d'abolir la loi sur le mariage homosexuel, union qui, a-t-elle dit récemment, ouvre la porte à de très nombreuses dérives, notamment la polygamie. Alors je ne sais pas quel est le jour de la journée du bonsaï. Marion Maréchal Le Pen, qui étant née en 1989, n'a, à l'inverse de son grand-père, pourtant pas été irradiée par le nuage de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Le nucléaire qui fait aussi la une du journal du dimanche, lequel à cause du 1er mai paraît avec un jour d'avance.
Et avec en une photo du patron du parti Les Républicains, Sarkozy choisit le nucléaire. C'est le titre, longue interview de celui qui ne s'est pas encore déclaré à la primaire de novembre, mais au regard de ce qu'il explique, aucun doute, il est candidat, analyse Dominique de Montvalon. Du moins, il accélère d'abord en livrant par anticipation les conclusions de la convention que tiendront mardi prochain les Républicains sur l'énergie en général et sur l'avenir des centrales nucléaires françaises en particulier. Il n'y a aucune alternative crédible au nucléaire, tranche l'ex-président qui préconise que soit partiellement ouvert le capital d'EDF, un Sarkozy pas mécontent de prendre la gauche à contre-pied. Et une partie de la droite également. Il accélère ensuite en détaillant la leçon qu'il tire du premier tour de la présidentielle autrichienne, qui a vu l'élimination de la droite et de la gauche de gouvernement au profit de l'extrême droite. Voilà, dit-il, le résultat de la pensée unique et du gouvernement de grande coalition. Quand il n'y a plus qu'à choisir entre une coalition molle et les extrêmes, on a une extrême droite à 35% si l'alternance est molle, si c'est la pensée unique, si c'est un peu de gauche et un peu de droite, c'est le résultat que nous aurons. Et l'ex-chef de l'État, d'en appeler au réveil des républicains de tous bords, il souhaite, dit-il, une alternance franche. Alors, à qui ce message s'adresse-t-il? Sûrement à Emmanuel Macron, sûrement à François Hollande, mais évidemment, c'est un message également à l'adresse d'Alain Juppé et au passage de François Bayrou. Concernant Emmanuel Macron, il le qualifie de cynique. Macron, qui nous apprend par ailleurs le JDD, donnera dans 15 jours le top départ de sa grande marche. Après la grande marche de Mao, la grande marche de Macron, son objectif, lancer 4000 militants, 4000 marcheurs à la rencontre des Français dans des opérations de porte à porte. Et puis un dernier mot de l'interview de Nicolas Sarkozy qui s'exprime également sur le mouvement Nuit Debout. Il y a quelques jours, il avait qualifié ses militants de gens qui n'ont rien dans la tête. Il persiste et signe aujourd'hui affirmant qu'il s'agit là d'un mouvement d'extrême gauche qui, dit-il, n'est porteur d'aucune idée constructive et que le gouvernement a laissé faire pour des raisons purement électorales.
Un mouvement qui de fait continue de gêner fortement le gouvernement.
D'où le titre du Parisien ce matin qui évoque le boulet de la loi Travail. Hier soir, près de 3000 amendements avaient déjà été déposés sur la loi Travail qui entre en débat dans l'hémicycle mardi prochain. Le système informatique ayant buggé, le délai octroyé aux députés pour amender le texte a même été repoussé de 24 heures jusqu'à ce soir. On prévoit 5000 amendements, soit presque autant que pour la loi sur le mariage pour tous, sur fond de défilé du 1er mai et de radicalisation croissante des opposants. L'épreuve de l'hémicycle promet d'être rude, explique le journal. Épreuve rude pour le gouvernement qui cherche toujours une porte de sortie. Dès lors, trois questions. Le retrait est-il possible? Non. La CGT, Force ouvrière et l'UNEF ont beau insister depuis des semaines, il n'est pas question d'un retrait du texte, affirme-t-on clairement à l'Élysée. Deuxième question, de nouveaux changements sont-ils en vue? Oui, le texte va être amélioré, mais sans être déséquilibré, confie Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. En comptant l'avant-projet de loi, on serait donc à 4 versions différentes de ce texte. Troisième question, y aura-t-il une majorité à l'Assemblée? Je connais trop de députés qui disent « nous ne voterons pas le texte ». L'aveu est du chef de file des députés PS, Bruno Leroux, inutile de compter sur les voix de l'opposition. Les communistes y sont hostiles, comme une partie des écolos. Quant aux frondeurs du PS, ils ne sont pour l'heure pas décidés à voter pour. Résultat, affirme la coordinatrice sur ce projet de loi, Monique Iborra, on n'est pas assuré du vote. Hier après-midi, le groupe PS rameutait déjà les troupes en envoyant des emails à chacun des députés, leur crainte que certains participent subitement à un atelier crêpe, explique un député, sachant que la journée des crêpes, elle est déjà passée.
Ce 30 avril, ce sera aussi la première fois qu'une épreuve sportive féminine bénéficiera des mêmes avantages que son homologue masculine.
Une première dans l'histoire, Patricia. Et en l'occurrence, il s'agit d'une épreuve de cyclisme, le Tour de Yorkshire féminin. Ici, les filles sont reines, résume l'équipe, qui précise toutefois que ce tour, chez les hommes, se dispute sur 3 jours. Chez les femmes, c'est une seule journée. Course de 136 km. Mais pour le reste, tout est pareil. Couverture télé identique, une diffusion en direct et prime identique pour le gagnant et la gagnante, une prime de 15 000 livres, environ 19 000 euros. C'est clair que c'est une grosse avancée, se félicite la coureuse française Audrey Cordon, qui rappelle que pour le Giro, le Tour d'Italie, qui est la plus grande course féminine par étape, les organisateurs offrent à la première du classement général une prime de 200 euros. Après 10 jours d'épreuve, la parité dans le sport est encore à faire, encore des progrès à faire, mais ce samedi, nous pouvons donc féliciter les Anglais.
Enfin, plusieurs journaux qui s'attardent sur une actu musicale. Demain, le Boléro de Ravel tombera dans le domaine public. C'est intéressant parce que je crois que c'est l'œuvre la plus jouée au monde.
Et parfaitement jouée tous les quarts d'heure, disent certains. Lire dans Le Monde et lire dans Le Figaro. De quelle manière s'est passée la succession du compositeur? Célibataire sans enfant, Ravel laisse un héritage à son frère Édouard. À la mort de ce dernier, une longue et rhizomatique dispute légale débute, faisant s'affronter ou s'allier un cousin tromboniste, une masseuse et son mari chauffeur de maître, un éditeur compromis pendant l'occupation, un ancien directeur juridique de la SACEM qui finit par mettre la main sur une grosse partie du magot et parvient à le dissimuler au fisc par des sociétés de complaisance offshore. Tout le monde voulait décidément toucher à ce Grisby-là et celle qui aujourd'hui récupère les droits du Boléro de la Ravel, elle s'appelle Evelyne Pain de Castel. C'est une blonde sexagénaire, nous décrit le Figaro, qui partage son temps entre ses propriétés de Montreux et de Stadt. Elle percevrait l'essentiel des droits versés par la SACEM. Son seul lien avec le compositeur est d'être la fille unique de la seconde épouse du mari de la masseuse.
Attendez, là, faut que vous
de l'épouse du frère de Ravel.
Si je vous ai bien suivi, Frédéric Pommier, parce qu'il se trouve que demain matin, Pierre Veil reçoit Florian Philippot, donc c'est pas la peine qu'il lui parle des bonsaïs.
Il peut lui demander quel est le jour, quelle est la date de la journée du bonsaï.
Bon, c'est
vous lui poserez la question.
Oui, d'accord.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.